France Musique. Musicopolis. Schumann au bord du Rhin. Le 25 mai 1829, en route de sa Saxe natale vers Heidelberg, Robert Schumann écrit à sa mère. À 9h, nous quittâmes Wiesbaden. Je fermais les yeux afin de pouvoir jouir pleinement du fond de l'âme du premier regard que je jetterais sur le vieux Vater Rhein, le père Rhin, si majestueux. Lorsque je rouvris les yeux, le fleuve s'étalait devant moi, calme, silencieux, serein et fier comme un dieu antique. Et autour de lui se développait cette immense plaine fertile et fleurie, entourée de monts et de vallées, au milieu desquels se trouve le paradis des vignes. Ce premier contact de Robert Schumann avec le Rhin en mai 1829, à 19 ans, est un moment important dans sa vie. Ce fleuve n'est pas qu'un cours d'eau remarquable, son nom même cristallise tout un imaginaire poétique et historique. C'est le lieu de contes et légendes qui font rêver petits et grands. Nous nous mîmes en route, raconte Schumann à sa mère, pour visiter le délicieux Niederwald, d'où l'on jouit d'une vue splendide sur la merveilleuse vallée du Rhin. Il en est des vieux châteaux forts, dont on a tant entendu parler et tant rêvé depuis l'enfance, comme de toute chose. Ils vous font, au premier abord, une impression d'étonnement, d'ahurissement. On voudrait les prendre d'assaut, etc., etc. Puis on s'y accoutume et on passe devant eux comme si on était habitué à les voir. La belle ruine d'Ehrenfels, la première que je vis, me regarda avec arrogance, ainsi que la tour des souris dans le Rhin, dont tu dois connaître la légende. Le soleil s'abaissait avec majesté, et le soir s'étendait doucement. Sur les bords du fleuve, à Rüdesheim, se voyaient quelques bateaux sur lesquels on s'agitait gaiement. Les vieux, fumant leurs pipes, étaient assis sur des bancs devant les maisons. De beaux, de superbes enfants jouaient sur le rivage, si bien que j'oubliais presque le lever de la lune. Alexandre Dumas, en excursion sur les bords du Rhin en 1838, explique ce que représente le Rhin. « Il est difficile à nous autres Français, écrit-il, de comprendre quelle vénération profonde les Allemands ont pour le Rhin. C'est pour eux une espèce de divinité protectrice qui, outre ses carpes et ses saumons, renferme dans ses eaux une quantité de naïades, d'ondines, de génies, bons ou mauvais, que l'imagination poétique des habitants voit le jour à travers le voile de ses eaux bleues et la nuit, tantôt assise, tantôt errante sur ses rives. Pour eux, le Rhin est l'emblème universel. Le Rhin, c'est la force. Le Rhin, c'est l'indépendance. Le Rhin, c'est la liberté. Schumann va passer une année scolaire à Heidelberg, sur le Neckar, un affluent du Rhin, à la faculté de droit. Mais l'angoisse le taraude, il sait bien que le droit n'est pas une carrière pour lui. Il a parfois des malaises. En mars 1830, il écrit dans son journal « Ivre d'ennui, moralement brisé, mon envie de me précipiter dans le Rhin ». Quelques semaines plus tard, il décide qu'il sera musicien. Il repart pour Leipzig, où il va se consacrer à l'apprentissage de la musique, notamment avec le grand pédagogue du piano, Friedrich Wieck. Wieck, dont la fille Clara est elle-même pianiste et de laquelle Robert va tomber éperdument amoureux. Berg und Burgen schauen herunter in den Spiegel hellen Rhein und mein Schiffchen segelt Montagnes et châteaux se mirent dans les clairs flots du Rhin, et ma barque vogue allègrement, illuminée de l'éclat du soleil. Schumann met ce poème de Heine en musique en février 1840. Il est alors en pleine procédure pour obtenir du tribunal l'autorisation d'épouser Clara Wieck. Le jugement aura lieu durant l'été, les bans seront publiés le 16 août et le mariage aura lieu le 12 septembre. Le poème de Heine est plutôt ironique. Et si Schumann en fait une tranquille barcarolle, les deux dernières strophes sont tout de même terribles. Des appels charmeurs et prometteurs montent du fleuve magnifique et m'attirent. Mais je le connais. Brillant à la surface, il cache en son fond la nuit et la mort. Au dehors la joie, au dedans la perfidie. Fleuve, tu es l'image de ma bien-aimée. Elle aussi sait prendre ses airs charmants et son sourire est grâce et douceur. Freundlich grüßend und verheißend lockt hinab des Stromes Pracht. Doch ich kenn ihn oben gleisend birgt ein inneres Tod und Nacht. Birgt ein inneres Tücken, Strom, du bist der liebste Bild, die kann auch so freundlich nicken, lächelt auch so fromm und mild, lächelt auch so fromm. Und Heinrich Heine, dont Schumann met une quarantaine de poèmes en musique en 1840, l'année de son mariage, est un Rhénan. Né à Düsseldorf, il a souvent chanté le Rhin dans ses poèmes. Schumann puise dans ses chants, à la tournure souvent populaire, légère et ironique, une inspiration toujours renouvelée. Le cycle Dichterlieb, Les Amours du poète, propose 20 lieder sur des poèmes de Heine. Le sixième est Im Rhein, im Heiligen Strom. Dans les eaux du Rhin, le Saint Fleuve se joue avec son grand dôme, la Sainte Cologne. Dans le dôme est une figure peinte sur cuir doré. Sur le désert de ma vie, elle a doucement rayonné. Des fleurs et des anges flottent au-dessus de Notre-Dame. Les yeux, les lèvres, les joues ressemblent à ceux de ma bien-aimée.
Im Rhein, im Heiligen Strom, da spiegelt sich in den Wellen mit seinem großen Tone das große heilige Köln. Im Dom, da steht ein Bildnis auf goldenem Leder gemalt. In meines Lebens Bildnis hat's freundlich hineingestrahlt. Es schweben Blumen und
cette vision de la Sainte Cologne, dont le dôme se mire dans le Rhin, est plutôt austère et fait penser aux vieilles légendes moyenâgeuses et un peu raides. Schumann est passé par Cologne en septembre 1830, à son retour de Heidelberg. Il écrit à sa mère qu'il s'y est trouvé triste et inquiet. Les vagues du Rhin l'avaient rendu mélancolique et dénigrant. Alors qu'à Wesel, près de la frontière hollandaise, il s'est promené encore une fois sur les rives du fleuve, où il a pris congé de ses flots d'émeraude. Le Rhin est multiple, tour à tour sombre, perfide ou protecteur et joyeux.
Des Sonntags in der Morgenstund, wie wandert sich so schön am Rhein, wenn rings in weiter uns die Morgenglocken gehen. Ein Schifflein zieht auf blauer Flut, da singt's und jubelt's drein. Du Schifflein, gelt das 40 gut in all die Lust hinein. Vom Dorfe hallet Orgelton, es tönt ein frommes Lied. Andächtig starrt die Prozession, aus der Kapelle zieht. Und ernst in all die Herrlichkeit, die Burke niederschaut und spricht von alter guter Zeit, die auf den Fels gemauert. Das alles läut dir prächtig ein an seinem Rebenstrand und spiegelt recht hellsten Schein das ganze Vaterland, das fromme, treue Vaterland in seiner vollen Pracht, mit Lust und Liedern allerhand vom lieben Gott bedacht.
Les dimanches, le matin, comme il est agréable de se promener le long du Rhin quand tout autour, les cloches du matin sonnent. Ce poème de Robert Reinick, mis en musique par Schumann à l'été 1840, est l'une des seules peintures optimistes du Rhin choisies par Schumann. Mais à l'automne de la même année, il se coulera dans une veine beaucoup plus patriotique. En 1840, survient une crise diplomatique entre la France et l'Allemagne qu'on a appelée « crise du Rhin ». À la suite du récent traité de Londres, signé par plusieurs grandes puissances européennes aux dépens de la France, une vague de nationalisme grossit et l'opinion publique française se met à revendiquer la rive gauche du Rhin qui serait la frontière naturelle de la France. Les poètes allemands s'emparent du sujet, notamment un certain Nikolaus Becker qui écrit « Der Deutsche Rhein » qui va être mise en musique par de nombreux compositeurs, dont Schumann, début novembre 1840. Ils ne l'auront pas, le libre Rhin allemand, même si, comme des corbeaux gloutons, ils le réclament d'une voix rauque. De part et d'autre du Rhin, chacun prend la plume, en mots ou en musique, et y va de son couplet patriotique, avec pour centre le Rhin. Cette crise a uni les Allemands, et comme le dit Heine, elle les a remis sur pied en tant que peuple. Après leur mariage en septembre 1840, les Schumann s'installent à Leipzig, où ils vivaient déjà chacun de leur côté. Ils y restent jusqu'en 1844. Puis, ils vont passer quelques années à Dresde, dont ils partent avec leurs enfants début septembre 1850 pour Düsseldorf. Robert a signé pour le poste de directeur de la musique de cette ville du Rhin. Il est alors, depuis la mort de Mendelssohn, considéré comme le plus grand compositeur allemand. Et Clara, de son côté, est l'une des plus grandes pianistes d'Europe. Les avoir tous les deux à Düsseldorf est pour la ville une chance formidable. Ils sont reçus de la manière la plus chaleureuse qui soit. Fin septembre, la famille visite Cologne, une quarantaine de kilomètres en amont sur le Rhin, et sa magnifique cathédrale. Thank you. D'après son premier biographe, Josef von Wasilewski, premier violon de l'orchestre de Düsseldorf, c'est la cathédrale de Cologne qui aurait inspiré le quatrième mouvement de la symphonie que Schumann se met à composer très peu de temps après son arrivée au bord du Rhin. Fin septembre 1850, Clara écrit « Dimanche, pour notre agrément, nous sommes allés à Cologne, qui à première vue nous charma, et plus particulièrement sa grandiose cathédrale, dont une visite approfondie dépassa encore notre attente. » Ce mois-là, on parle de la cérémonie qui va avoir lieu pour l'intronisation de l'archevêque de Cologne en tant que cardinal. Pour le quatrième mouvement de sa symphonie, Schumann a d'abord écrit en exergue dans le caractère d'un accompagnement pour une cérémonie solennelle. Schumann compose sa symphonie en mi bémol majeur en quelques semaines à peine, à l'automne 1850, juste après son arrivée à Düsseldorf. Selon lui, elle évoque un peu de la vie sur les bords du Rhin, ce qui explique qu'on lui ait donné le sous-titre de Rhénane. Seul le quatrième mouvement, avec son caractère d'accompagnement pour une cérémonie solennelle, est sombre et fait même penser à une cérémonie funèbre. Une prémonition peut-être du jour de 1844 où Schumann se jettera dans le Rhin. Mais cette impression funèbre est balayée à l'arrivée du cinquième et dernier mouvement. Avec ses allures de danse et de chant populaire, le final de la symphonie Rhénane de Schumann emporte au loin toutes les pensées funèbres qui agitaient le quatrième mouvement. Désormais, la vie et la mort de Schumann seront liées au Rhin. Sa vie à Düsseldorf, jusqu'au jour fatal où il tente de se suicider en se jetant dans le fleuve, puis à Endenich, près de Bonn, où il meurt après avoir vécu ses derniers mois dans une clinique psychiatrique, faisant souvent la promenade du bord de l'eau. Le final de la troisième symphonie de Robert Schumann, dite Rhénane, l'orchestre de la Staatskapelle de Dresde, dirigé par Wolfgang Stawalisch. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Philippe Petit pour la réalisation et Philippe Thibault pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.